Bon, merci beaucoup Isabelle et sa sœur pour ces beaux chants de louange. On continue avec un message ce matin qui s'intitule « Trouver la paix au milieu du chaos ». Et dans notre diffusion cette semaine, je parlais que, étant donné que toutes les églises sont en ligne, eh bien, il n'y a plus de distance. Alors, pourquoi pas inviter nos amis, nos collègues et nos connaissances à dire « Bien, viens donc à l'église ce matin avec moi, c'est très simple, et partager le lien ou partager le message ». Donc, si jamais ce message-là, tu dis, écoute, Gaétan, je connais tout ça par cœur, c'est peut-être parce que ça ne s'adresse pas à toi. Ça s'adresse à d'autres personnes à qui tu pourrais le partager. Et ce matin, donc, trouver la paix au milieu du chaos parce qu'on vit des situations qui sont hors normes. J'entendais quelqu'un qui disait, on est en train de construire l'avion en même temps qu'on est en train de voler dedans. C'est-à-dire, on est en situation inconnue et on est en train, pas d'improviser dans le sens négatif, mais on est en train de s'ajuster constamment avec la nouvelle réalité qu'on découvre. Une vérité qui était vérité le matin, peut-être qu'elle est plus exacte le soir, et c'est ce que nos dirigeants nous disent. Donc, on a le contexte parfait pour devenir anxieux. Alors, ma question ce matin, c'est, es-tu stressé? Es-tu trop stressé ou pas assez? Où est-ce que tu te situes? As-tu fait tes réserves de papier de toilette? As-tu nettoyé ta maison 10 fois cette semaine? Ou bien est-ce que tu t'es mis en colère pour rien? Et tu te demandes, voyons, qu'est-ce qui se passe avec moi? Vous savez, lorsqu'on vit un stress constant, ça peut provoquer certaines réactions comme ça. Et j'écoutais une entrevue vraiment intéressante avec une spécialiste de la psychologie post-traumatique. Et elle mentionne dans ses écrits que les théories évolutives sur le stress comprennent que les gens qui se situent au milieu de la courbe du stress sont les gens qui ont la plus grande probabilité de survie. Ceux qui sont juste assez stressés pour détecter la menace, puis y répondent adéquatement. Donc, si on n'est pas assez stressé, ben, on risque de ne pas prendre la menace au sérieux. Et si on est trop stressé, on risque de prendre des mauvaises décisions qui vont mettre en péril notre survie. Ça, c'est une théorie générale, mais aujourd'hui, c'est « es-tu stressé? » Comment est-ce qu'on peut trouver la paix au milieu de ces éléments anxiogènes? Alors, qu'est-ce qui vous stresse? De ne pas avoir le contrôle, d'avoir perdu votre travail, de faire face à un danger invisible? Une des raisons les plus répandues du stress, en réalité, c'est d'être face à l'inconnu. De faire face à l'inconnu. Comment est-ce qu'on garde l'équilibre? Comment est-ce qu'on va garder l'équilibre au milieu de ces situations qui sont réellement stressantes? Je ne sais pas où je m'en vais. J'étais tellement habitué. Peut-être tu dis, j'étais tellement habitué. J'avais le contrôle de ma vie. Je savais où je m'en allais. J'avais mes économies. J'avais mon fonds de pension. Et j'avais mon petit véhicule récréatif. Et puis mes vacances étaient planifiées. Puis là, qu'est-ce que je vais faire? Je ne pourrais peut-être pas prendre mes vacances. J'ai prévu un voyage. J'ai prévu ceci. Il y a quelque part, on se met à s'inquiéter et à paniquer parce que c'est l'inconnu devant nous. Et souvent, les situations, comme on les vit, les bouleversements nous amènent à remettre des choses en question, réévaluer nos priorités, réévaluer nos valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment important? Et moi, ce que je vais vous parler, c'est justement comment est-ce qu'on peut trouver la paix. Je vous ai mis une image que j'aime bien. On connaît cette image-là. Très belle image d'un photographe qui l'a pris. C'est sûr que lui est en hélicoptère. J'espère que le gars, dès que le cliché a été pris, est rentré pas le phare, mais le phare et non le phare. Si je regarde derrière moi, est-ce qu'on voit bien l'image? Donc, le gars a les deux mains dans les poches. Il a l'air vraiment nonchalant. Imaginez-vous dans cette situation, au milieu de vagues monstrueuses, dans une tempête sur mer. Posez-vous la question, comment est-ce que cet homme peut rester calme? Vous, qu'est-ce que vous auriez besoin pour rester serein malgré la puissance des éléments? Qu'est-ce que vous auriez besoin pour rester serein, vous, dans cette situation-là? La réponse est la confiance. La confiance. Savoir, hors de tout doute, que la construction, cette construction-là en pierre, en béton, pourtant au milieu de la mer, que cette construction-là est assez solide pour me protéger et assumer le coup de bélier des vagues immenses. Présentement, la photo est un peu coupée, mais il y a d'autres photos qui me démontrent que les vagues pouvaient frapper jusqu'au milieu de la tour, plus ou moins. Donc, c'est la confiance, savoir que ce bâtiment-là va être solide et puis va pouvoir me protéger. Puis ça m'amène à vous poser une autre question. Où est-ce que vous avez placé votre confiance jusqu'à maintenant? Ici, dans cette illustration très physique, de savoir hors de tout doute, vraiment hors de tout doute, que ce bâtiment-là est assez solide, me permet de respirer un peu plus sereinement. Je ne sais pas si je serai à l'aise de sentir la vibration des vagues qui cognent sur les murs. Mais cet homme-là, qui a peut-être fait ce métier-là depuis 20 ans, il peut s'asseoir à sa petite table, prendre son café sereinement, même s'il y a la tempête. Parce qu'il sait que ce phare est solide et a été construit pour être à l'épreuve de toutes les vagues. Et nous, on a à se poser la question, où est-ce que jusqu'à maintenant, on a placé notre confiance? Et qu'est-ce qui nous a permis, autrement dit, qu'est-ce qui t'a permis, jusqu'à maintenant, de te sentir en sécurité, de te sentir serein dans la vie? Et qu'est-ce qui t'a permis de te sentir en contrôle de ta vie, de ta destinée jusqu'à maintenant? Est-ce que votre sentiment de sécurité est toujours présent malgré la situation dans laquelle on est? Si vous avez commencé à sentir l'anxiété monter hors de contrôle, vous vous lancez dans accomplir quelque chose, vous réalisez que vous avez un comportement qui est différent de d'habitude, vous avez fait des réserves de papier toilette, des réserves de nourriture, qu'importe, vous prenez des précautions absolues, vous écoutez les nouvelles du matin au soir. Si c'est le cas, eh bien, votre sentiment de sécurité n'est peut-être plus présent dans votre vie. Et si c'est le cas, c'est peut-être que le fondement de votre sécurité a besoin d'être réévalué, là où tu places ta sécurité. Ce matin, on va parler de paix, on va y arriver. Mais je veux juste ramener cette notion-là. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont rejeté... Oups, je vais juste reculer. Beaucoup de gens ont rejeté la notion de Dieu, que Dieu puisse exister, ou même qu'il ait un rôle à jouer dans notre vie. Se peut-il que notre raisonnement était faux? Est-ce que ça se peut que notre raisonnement était faux? Vous savez, j'ai déjà entendu ça, j'ai trouvé ça intéressant, cette notion. De tout ce qui peut être connu dans l'univers, je vous lance une devinette. D'après vous, de tout ce qui peut être connu dans l'univers, quel est le pourcentage que l'on connaît jusqu'à présent? Je parle de l'univers, de tout. Du macro, du micro, du macro, jusqu'à l'infini, qu'importe, dans toutes les dimensions, jusqu'au plus petit possible, jusqu'au quarks. Qu'est-ce qu'on connaît jusqu'à maintenant de tout ce qui peut être connu dans l'univers? 50%, 80%, 10%, 20%? Lancez un chiffre. Les plus réalistes de nos scientifiques diront que c'est peut-être 10% de tout ce qui peut être connu dans l'univers, dans toutes les sphères, dans tous les aspects, grand, du plus grand jusqu'au petit, l'univers au complet, intergalactique, autant que tout ce qui peut être découvert sur Terre, dans l'être humain, dans la nature, dans les êtres vivants sur Terre. Les scientifiques disent, oh, sûrement pas plus que 10%. Alors, j'ai une question à vous poser. Se peut-il que Dieu puisse faire partie du 90% qui nous est encore inconnu à plusieurs d'entre nous? Beaucoup ont tendance à rejeter Dieu parce qu'ils se disent, bon, si je mets cette notion-là de côté, je peux vivre ma vie comme je l'entends. Oui, c'est un raisonnement. Ce matin, j'aimerais juste vous proposer une petite exploration pour voir si ce fameux vieux livre qu'on appelle la Bible, si c'est encore pertinent aujourd'hui dans notre situation de crise planétaire, de pandémie. C'est ce que j'aimerais voir. Vous savez, il y a un spécialiste en psychologie post-traumatique qui a fait une entrevue dans les médias récemment. Elle disait une chose vraiment intéressante. Comment garder l'équilibre? Et il y a 5 points qu'elle a nommés, j'en ai retenu 4. Donc, les 4, je vais vous les ramener. Je me suis dit, tiens, face à ces 4 points où on dit, ça, c'est important si on veut garder l'équilibre dans cette situation de crise et ne pas tomber dans l'anxiété extrême, comment on fait? Et j'ai trouvé intéressant parce que je me suis dit, est-ce que ce vieux livre qu'on appelle la Bible en parlait? Il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Même, j'ai trouvé intéressant parce que les mesures sanitaires qui sont mises en place par le gouvernement et par notre département de la santé, notre ministère de la santé. Je trouvais ça intéressant, toute cette mesure de se mettre à part, quarantaine, exclusion, etc. Et les tests, si c'est positif, mise en quarantaine, par la suite, deux autres tests à la fin pour voir si on est réellement guéri. C'est spécial parce que c'est exactement ce que Dieu avait demandé à Moïse de faire il y a près de 4000 ans. Pour les maladies de peau et les maladies incurables, c'est exactement la même approche. Donc, lorsqu'on dit « c'est un vieux livre de mythes », pas sûr, explorons. Donc, ce spécialiste de la psychologie disait, pour garder l'équilibre, premièrement, il faut faire confiance. Donc, qu'est-ce que ce vieux livre millénaire parle au niveau de la confiance? Est-ce qu'il y a des versets qui vont peut-être m'encourager là-dedans? Donc, comme on disait tantôt, de tout ce qui peut être connu, on en connaît à peu près 10 %, donc peut-être que Dieu existe dans ce 90 % qu'on ne connaît pas. Donc, faire confiance, c'est ce que la personne disait. Que ce soit de faire confiance dans les autorités, dans les gens qui prennent les décisions. Donc, une confiance à quelque part. On doit être capable de faire confiance et non de marcher dans la suspicion. C'était dans ce sens-là. Qu'est-ce que la Bible parle par rapport à ça? Le fameux vieux livre millénaire. Dans un vieux passage de l'Ancien Testament, le livre d'Ésaïe, ça date. Écoute, vous vous trouvez vieux, Ésaïe a 2500 ans. Il est plus vieux que vous. Et Ésaïe dit, de la part de Dieu, puisqu'il est prophète, donc Dieu lui a demandé de parler de sa part aux gens, il dit, n'aie pas peur, car je suis moi-même. Moi-même, c'est Dieu, avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. N'aie pas peur. Ah, peut-être certains disent, ah, mais je croyais que Dieu était colérique, sévère, méchant. Oui, c'est votre opinion. Et trop souvent, c'est fait une opinion de Dieu à partir de gens qui croyaient bien le représenter et qui nous ont apporté des notions qui, honnêtement, étaient tordues concernant Dieu. Donc, on retourne au vieux livre millénaire pour voir ce que Dieu dit vraiment sur les différentes situations de nos vies. Est-ce que Dieu s'intéresse vraiment à nous? Est-ce que Dieu existe, premièrement? Testez-le, vous verrez. Donc, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je suis là, je suis avec toi pour te fortifier. Donc, wow! Peut-être certains pensaient que Dieu, c'était juste une énergie cosmique à quelque part, puis qu'il se foutait de toi. Peut-être c'est ce que tu as cru jusqu'à maintenant. Mais ces paroles-là que je vois ici, ce n'est pas des paroles de foutaise, ce n'est pas des paroles d'insouciance, je suis moi-même avec toi. Je suis ton Dieu. Ne promène pas des regards inquiets. On regarde un autre passage de ce vieux livre millénaire, encore dans Ésaïe. Tu pensais que Dieu, c'est une force cosmique qui n'a aucun intérêt dans ta vie. Ici, dans ce passage, on lit, « Pourquoi continues-tu à dire, le Seigneur ne s'aperçoit pas de ce qui m'arrive? » Mon bon droit échappe à mon Dieu. Wow! Et si jamais vous avez un de ces vieux livres-là à la maison, allez le chercher, puis allez lire le passage parce que la suite est encore meilleure. Mais je n'ai pas le temps de tout lire. Sinon, le verset 31, un peu plus loin, dit comme conclusion, « Ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Alors que les jeunes gens se fatiguent, alors que les athlètes peuvent trébucher, ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. » Oh! Intéressant. Dans un autre passage du Nouveau Testament, un peu plus récent, l'auteur de cette épître, de cette lettre, dans Hébreux chapitre 4, verset 16, « Approchons-nous donc de Dieu avec assurance pour être secourus dans nos besoins. » Oh! Donc, il ne doit pas être une force cosmique s'il nous demande de s'approcher de lui et que son intention, c'est que de nous secourir ou de rencontrer nos besoins. Intéressant. Je vais aller rapidement, je ne vais pas être trop long. On continue. Un deuxième point qui avait été mentionné par cette spécialiste pour garder l'équilibre, c'était de se recentrer sur la réalité. Se recentrer sur la réalité. Donc, c'est-à-dire le présent, et non sur la catastrophe ou bien sur tous les scénarios hypothétiques que l'on se joue dans la tête. Je ne me souviens plus si c'est Roosevelt ou quelqu'un d'autre. Un ancien politicien avait dit un jour, « Quand je m'inquiète outre mesure, je m'arrête un instant et je me rappelle ce vieil homme qui disait, « J'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie, mais la majorité ne sont jamais arrivés. » Autrement dit, il s'est imaginé beaucoup de choses. Et on a besoin de réaliser, on a besoin de se recentrer sur la réalité, dans la réalité. Alors, le vieux livre qu'on appelle la Bible, quelle est la réalité que Dieu veut qu'on saisisse? Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça? Pour être certain qu'on s'ancre dans la bonne réalité. On va regarder. On a un autre livre dans l'Ancien Testament, Jérémie, chapitre 29, verset 11. Alors que le peuple d'Israël était vraiment découragé et pensait justement que son droit passait inaperçu, etc., Dieu leur répond de la part de Jérémie, « Moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je vais vous donner un avenir à espérer ou un avenir rempli d'espérance. » C'est le message de la part de Dieu. Alors, comment ancrer, quelle est la réalité à laquelle Dieu désire qu'on se concentre? Ça, c'en est une. Dieu dit, « J'ai des projets pour vous. » Portez votre regard là-dessus. Mes projets sont des projets de bonheur, d'espérance. C'est ce que j'ai pour vous. Donc, ceux qui prônent à gauche, à droite, « Oh, c'est Dieu qui m'a envoyé, c'est Dieu qui a envoyé ce malheur-là, c'est Dieu ceci, c'est Dieu cela. » Je m'excuse, mais je vais vous poser la question, vous devez vous poser la question, mais où est-ce qu'on a chopé ce virus-là? Parce que ce n'est pas ce qu'on retrouve d'une manière objective dans la parole de Dieu, qui est la Bible, ce vieux livre. Est-ce qu'il y a un autre passage sur le même sujet? Oui. Dans l'Épître aux Hébreux, l'apôtre qui a écrit a essayé d'expliquer aux gens c'est quoi la foi. C'est quoi la foi pour un croyant qui a confiance. Et il dit, mettre sa foi en Dieu, c'est d'être sûr de ce que l'on espère, c'est d'être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Ça fait réfléchir. On parle de réalité. Notre ami avait dit, un des points importants, c'est de se recentrer sur la réalité, sur le moment présent. Et la réalité ici, l'apôtre ici semble nous dire que celui qui place sa foi en Dieu, mettre sa foi en Dieu, c'est d'être sûr de ce que l'on espère, c'est d'être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Donc, il y a une réalité qu'on ne voit pas et qui existe. Et ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle n'existe pas. Tout comme l'oxygène existe, je la respire, je ne la vois pas. Donc, la réalité, Dieu nous amène dans cette réalité-là. Ce que moi je pense de vous, c'est plus important que ce que vous pensez que je pense de vous. Des fois, c'est différent. Et d'être convaincu de la réalité qu'on ne voit pas, ça amène cette assurance-là. Et c'est d'avoir confiance à Dieu qui nous permet de réaliser qu'il y a autre chose qui existe que je n'avais jamais perçu. On continue. On ne va pas être trop long ce matin. Un troisième point que cette spécialiste avait dit, c'est de s'adapter. Si on veut vraiment garder l'équilibre avec tout ce qui se passe, on a besoin de s'adapter, user de souplesse cognitive et émotionnelle. Donc, être en mesure de s'adapter. Donc, tu avais prévu tes vacances, un voyage à quelque part, tu réalises qu'il n'y aura pas lieu. Tu peux t'en faire outre mesure et te dire, « OK, il y a sûrement autre chose en réserve pour moi. » Comment ce vieux livre-là nous parle de s'adapter? Est-ce qu'il y a possibilité de trouver dans un vieux livre millénaire, plus que millénaire, des paroles d'inspiration pour nous aujourd'hui, 2020, au milieu de la crise de la COVID-19? Je l'appelle souvent COVID-21, désolé, je ne sais pas pourquoi. J'espère que ce ne sera pas la prochaine. Un passage dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul ici a écrit aux Romains, et il mentionne, et il y a toute une longue, il faut lire le chapitre au complet pour vraiment saisir, il y a beaucoup de richesse. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux et celles qui aiment Dieu et qu'il a appelé selon son projet. Quel projet déjà? C'était quoi le projet de Dieu, vous vous en souvenez? Projet de bonheur et d'espoir. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une autre manière de le dire, c'est que tout ce qui peut nous arriver, Dieu va le transformer pour notre bien. Dieu est trop sage, trop bon, c'est mon avis, peut-être vous le découvrirez par vous-même, pour permettre que toute situation que l'on vit nous laisse dans le désespoir ou nous détruise. Dieu est en mesure de renverser toute situation. Ça ne veut pas dire que le fait que Dieu a renversé une situation pour mon bien, il en est le commanditaire, il n'en est pas nécessairement le commanditaire. Mais Dieu est trop bon pour nous laisser, parce qu'on est ses enfants, il nous dit « crains rien, je suis avec toi et je te secours ». Et j'ai ajouté le verset qui suit, parce que son exposé, Paul, va un peu plus loin en disant, bien, écoutez, en réalité, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? vous souvenez quand vous étiez jeune, qu'il y avait des conflits entre vos amis? Vous savez, l'idée, mon père est plus fort que ton père. Moi, j'aimais bien blaguer, je disais, fais attention, moi, ma mère est plus forte que ton père. Et on avait cette notion-là de, ah oui, mon père est plus fort que ton père. Et ici, l'apôtre Paul apporte cette notion, écoute, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Allez lire la suite du chapitre, parce que la vérité, c'est personne. Personne ne peut être contre nous si Dieu est pour nous. Et il termine en disant, au verset 38, ce n'est pas sur l'écran, mais je vous le lis. « Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. » Wow! Ça fait du bien de réaliser, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Wow! Un autre passage, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, qui va nous aider. On parlait de quoi déjà tout à l'heure? S'adapter? Oui, s'adapter, parfait. Et cet autre passage, dans Corinthiens, Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra l'épreuve, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. À chaque épreuve dirigée vers nous, Dieu va nous fournir le moyen de s'en sortir. Si on regarde ailleurs et on bricole nos propres solutions, on peut passer à côté. Et ici, c'est vraiment intéressant. Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu n'est pas en train de dire, « Je vous envoie des épreuves, je vais vous tester, je vais tester votre caractère, voir comment aller souffrir pour mon nom. » Toutes ces notions-là qu'on a apprises dans le passé viennent de la religion. La religion, Jésus est venu instaurer la vérité, la réalité de l'Évangile, et non la religion. Les hommes en ont fait une religion, ont établi des règles, et notre compréhension humaine nous a amenés à donner une description de Dieu ou représenter Dieu de la manière la plus tordue qui n'est pas possible de voir. Mais ici, tantôt on parlait de quel projet? Dieu a des projets de bonheur et d'espoir. Puis ici, on voit clairement, Dieu est fidèle à ses promesses. Il ne va pas permettre que vous soyez tenté au-delà de vos forces. La prochaine fois que tu es tenté de dire, wow, c'est au-delà de mes forces, tu peux aussi dire, Dieu, si tu existes, je te fais confiance. Seigneur, je décide de te faire confiance que tu vas me conduire dans cette situation-là et que tu vas me donner la force et tu vas me donner le moyen de m'en sortir. Tu vas me donner la sagesse, tu vas me donner la situation, tu vas me permettre de sortir de cette situation-là. Et Dieu va le faire. Et comme je vous avais promis que mon message ne serait pas trop long, le dernier point, je crois bien que c'est le dernier point, pour garder l'équilibre, on doit rester en mode apprentissage. Donc, je vous amène 4 points qui sont reconnus par la psychologie post-traumatique, par les scientifiques actuels, mais je m'aperçois que ce fameux vieux livre qu'on appelle la Bible, où plusieurs ont dit « Oh, c'est des mythes là-dedans », elle a quelque chose à dire pour notre situation actuelle, pour avoir la paix au milieu du chaos, la paix au milieu de tout ce qui est chamboulé autour de nous, parce que la crainte vient de l'inconnu. La crainte vient de l'impression d'avoir perdu le contrôle. Je n'ai plus le contrôle de tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Le contraire de la crainte, c'est la confiance. Alors, si vous n'êtes plus capable de faire confiance dans ce qui est autour de vous, parce que ce qu'on vient de voir, c'est qu'un petit virus a détruit l'économie mondiale. Alors, peut-être que notre confiance dans le capitalisme, l'économie, dans notre capacité à pourvoir nos besoins, avoir un bon emploi, avoir un avenir devant nous, peut-être que notre confiance n'était pas à la bonne place. Ces choses-là ne sont pas mauvaises. Dieu désire qu'on prospère à tous égards, autant émotivement, spirituellement que matériellement. Là n'est pas le problème, mais notre confiance n'a pas besoin d'être là, parce qu'elle va être ébranlée. Tout ce qui peut être ébranlé va être un jour ébranlé, mais lorsqu'on place notre confiance en lui, c'est différent. Donc, être en mode apprentissage, c'est-à-dire être capable d'en tirer des leçons, des situations dans lesquelles on est, même si elles sont néfastes, négatives, désagréables, c'est vraiment le mot. Vous savez, quelqu'un a dit, tout ce que nous apprenons confirme à quel point nous sommes ignorants. Alors, je peux dire une chose ce matin que vous ne savez pas. Êtes-vous ouvert? Premièrement, je vais vous demander, êtes-vous ouvert ou bien croyez-vous tout connaître? Déjà tout à l'heure, non, ce n'est pas un piège. On a dit qu'on connaissait environ 10 % de tout ce qui peut être connu. Mais là, je parle d'attitude intérieure. Êtes-vous ouvert? à autre chose, ou bien vous croyez tout connaître ce que vous avez besoin pour vous, pour vivre une vie heureuse. En tout cas, moi, je peux vous dire ce matin une chose que vous ne savez pas. Et la chose que vous ne savez pas, c'est que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Ou je peux le dire autrement, vous ignorez ce que vous ne savez pas. Alors, si vous voulez vous coucher ce soir plus intelligent, ou plutôt avec votre culture enrichie, si je peux dire, avoir découvert quelque chose, ça part de cette attitude-là. Est-ce que je suis ouvert? Est-ce que je suis ouvert à apprendre quelque chose de nouveau que je ne savais pas, que je ne connaissais pas? OK. Donc, est-ce que le vieux livre a quelque chose à dire à ce sujet-là maintenant? Vous savez, la Bible, comme on parle. Le vieux livre, on va aller voir le vieux livre. Dans un vieux livre des Proverbes, donc ce livre-là ici, Proverbes 3, verset 5, a été écrit. Mettons, il y a 3000 ans. On fait des chiffres ronds. Donc, un vieux livre poussiéré de 3000 ans, voici ce qu'il dit. « Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. »
Qu'est-ce que tu veux dire, Gaétan?
« Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. » Être en mode apprentissage, c'est d'avoir un cœur ouvert. Quand je vous demandais tout à l'heure, êtes-vous ouvert? J'ai connu quelqu'un qui avait peur d'écouter ce que j'avais à dire parce que cette personne-là avait peur que ce que je lui dise ébranle les fondations de ses valeurs actuelles puis qu'elle ait à décider de qu'est-ce qu'elle allait faire avec ça ou que ça allait peut-être changer quelque chose dans sa vie. Donc, cette personne-là n'était pas ouverte parce qu'elle avait peur. Avez-vous peur de l'inconnu ou bien vous aimeriez explorer le 90 % que vous ne connaissez pas encore? Laissez-moi vous proposer un dernier passage de la Bible. Je crois que c'est un dernier passage, on va voir. Non, même pas, c'est un avant-dernier. Le dernier, c'est la conclusion. Il y a l'apôtre Jean qui a écrit dans la première épître de Jean, au chapitre 5, verset 13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez. » Donc, ce vieux livre-là ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance. Il y a un autre passage qui en parle. « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. » Mais on n'a pas le temps, c'est un autre sujet. On va regarder juste ce passage-là. « Je vous ai enseigné ces choses afin que vous sachiez. » Que vous sachiez quoi? Jean voulait qu'on sache quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut qu'on sache? Que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire, avoir la vie éternelle? Tout le monde veut la vie éternelle. Je veux le nirvana pour certains, je veux ceci, je veux cela. Qu'est-ce que l'apôtre Jean voulait dire réellement afin que vous ayez la vie éternelle, ou plutôt, je veux que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Après, sachiez, il y a trois petits points, mais en réalité, on peut enlever les petits points parce que ça, c'est une même phrase. Donc, les trois petits points, maintenant que j'ai ajouté la deuxième partie de la phrase, on oublie les trois petits points. Je veux que vous sachiez ces choses. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je vais terminer avec cette invitation-là. Ça se passe, c'est écrit dans le livre, le dernier livre de la Bible, Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Et l'histoire se passe que l'apôtre Jean aimait tellement parler de Dieu à tout le monde autour de lui qu'il fatiguait tellement les autorités qu'ils ont décidé de l'exporter. Ils l'ont envoyé en quarantaine sur une île déserte, littéralement. Sur l'île de Patmos, ils l'ont envoyé là, ils ont dit comme ça, là, il va arrêter de déranger tout le monde. Je sais, je le dis d'une manière un peu comique, mais alors Jean était là et il dit, un dimanche, j'étais en train de parler à Dieu, de prier, de chanter, j'avais du bon temps et tout à coup, il s'est passé quelque chose. Jésus lui est apparu d'une manière extraordinaire. C'est dans l'Apocalypse. Mais voici un des versets qu'il a dit. Il a dit, Jean, je veux que tu écrives à telle église. Voici ce que je veux que tu leur dises. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Un très beau passage. C'est un peu figuratif, naturellement. Mais ici, c'est Jésus qui parle à Jean, qui lui dit, je veux que tu dises ça. Et par extension, c'est comme si Jésus disait à Jean, je veux que tu communiques ça aux gens ici sur terre. Je me tiens à la porte, je frappe. On pourrait l'appeler la porte de notre être intérieur. Souvent, on dit simplement la porte de notre cœur. Jésus est en train de dire, je me tiens à la porte et je frappe. Il est dehors et il te laisse le champ libre et il dit, si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un a un cœur ouvert et dit, hé, quelque chose d'inhabituel là. Il faut que j'explore. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, il dit, hey, « Seigneur, si tu existes, viens dans ma vie. » J'ai fait un jour cette déclaration, « Seigneur, viens dans ma vie si tu existes. » Wow, ça a chamboulé ma vie. Je vais souper avec lui et lui avec moi. Vous savez, la Bible dit que Dieu et Jésus, ils étaient ensemble. Et ce que Jésus a accompli sur terre et il a terminé sur la croix, ce n'est pas une révolution ratée, c'était intentionnel. Ils l'ont fait ensemble pour réconcilier les hommes avec Dieu. Réconcilier. En n'imputant pas nos fautes. Donc, on était en brouille avec Dieu. C'est ce que ça veut dire littéralement. Et Dieu et Jésus ont réglé le problème pour nous réconcilier avec eux. Et quand on parle de réconciliation, on parle de relation. Et si Jésus t'invite à une relation avec lui, tu dis, oh, ces affaires-là, c'est de la foutaise, c'est ceci, c'est la religion. Wow, peut-être que ça fait partie du 90% qu'on ne connaît pas encore. Et ça prend un cœur ouvert, ça prend quelqu'un qui entend, qui discerne, ah, est-ce que Dieu existerait vraiment? Et il dit, s'il ouvre la porte, je vais entrer chez lui, je vais souper avec lui et lui avec moi. Dieu t'invite à une relation. Au milieu de ce tumulte, de ce chaos, il y a un seul endroit où tu peux placer une confiance indéfectible en quelqu'un, un être qui nous aime vraiment et qui est bon. Et c'est Dieu. Maintenant, tu te dis, voyons donc, je ne crois pas en Dieu. Invite-le. Dis-lui, Seigneur, est-ce que tu es en train de m'interpeller? Prends un moment, sonde ton cœur. Ton cœur est fermé parce que tu veux faire à ta tête ou bien tu désires découvrir quelque chose que tu n'as jamais pensé qui existait parce que ça faisait partie de l'inconnu que tu ne connais pas. J'aimerais que si tu écoutes ce message-là et puis ça t'interpelle, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Partage-le à quelqu'un qui a besoin d'encouragement. Mais Dieu t'invite ce matin. J'aimerais que tu fermes tes yeux là où tu es, qu'on fasse une simple prière. Seigneur Dieu, ce matin, chacun d'entre nous, tu nous interpelles. Ta voix, elle est douce, non menaçante, même pas en colère. Seigneur, tu te tiens en dehors de notre vie. Et tu nous invites à t'inviter dans notre vie. Alors, il revient juste à chacun de nous de répondre à cette invitation. Et ce matin, la prière est très simple. Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, je reconnais que je ne pourrais pas m'en tirer par moi-même, par mes propres efforts. Seigneur Dieu, je reconnais que tu as tout accompli pour me réconcilier avec toi. Je reçois ce pardon. Parce que c'est moi qui ai tourné le dos, qui a dit que tu n'existes pas, ou ceci ou cela. Seigneur Dieu, viens dans ma vie. Viens m'apporter ta paix qui dépasse toute intelligence. Garde-moi dans cette paix. Ouvre mon intelligence pour que je puisse te découvrir. Amen. Amen. Si vous avez apprécié ce message que je viens de vous apporter, abonnez-vous, partagez-le. C'est une interpellation. Restons ouverts, enseignables. Mettons-nous comme, je retourne en arrière, un tout petit peu comme ce spécialiste disait. Je recule. Je veux être sûr de ne pas perdre. Restons en mode apprentissage. Seigneur, enseigne-moi à te découvrir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une belle semaine. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là ou bien de vous abonner ou bien à la page Facebook ou bien à la chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse.